Mathilde Ducrest, bonjour. Bienvenue à la Foire du Livre de Bruxelles pour nous présenter votre premier roman graphique Fragile. Alors, vous avez déjà publié, ou auto-publié, Prunescence, qui avait été imprimé aux ateliers Tonnerre à Bruxelles. Comment ça se passe avec une maison d'édition comme celle de Castormont? Qui va vers qui?
Alors, moi, je me considère comme extrêmement chanceuse parce que c'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas très représentatif de ce que c'est le parcours d'auteur ou d'autrice en bande dessinée. En fait, ce premier travail de Prunescence m'a permis d'être remarquée par Nathalie Van Campenhout, qui est donc mon éditrice aux éditions Casterman. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai imprimé et produit quelques-uns de ces exemplaires-là pour les mettre à disposition à la vente sur des stands de mon collectif féministe qui s'appelle Stachmoule, sur les stands de marché d'édition, micro-édition et stands de marché d'illustration, pardon. Et Nathalie a l'habitude en fait de beaucoup se déplacer pour aller à la rencontre des jeunes auteurs émergents qui sont soit encore à l'école ou qui viennent d'en sortir. Donc c'est des endroits souvent où il y a une grande concentration de cette population-là.
Ouais.
Exactement, oui. Et donc c'est au détour d'un stand comme ça, elle est passée sur le nôtre, elle a trouvé mon travail, donc Prunescence, elle l'a acheté et je pense qu'elle a eu un vrai coup de cœur, ouais, c'est ça. Et puis elle m'a contactée à la fin de mes études pour savoir si par hasard je travaillais sur un projet qui pourrait devenir pourquoi pas un album, et il s'avère qu'à l'époque j'avais donc presque un dossier prêt pour ce projet-là, exactement. Et voilà.
Alors vous avez étudié la BD à Saint-Luc en venant en droite ligne de Fribourg. Alors, c'est pas courant, on peut le dire quand même, parce que, en général, les créateurs s'autoproclament auteurs BD ou d'autres qui travaillent et se font les dents pour d'autres. Comment expliquez-vous votre choix de ces études, hein?
Je ne sais pas vraiment si c'était un choix à proprement parler, dans le sens où il n'était pas réfléchi, ce n'était pas une motivation de me dire « je vais faire de la bande dessinée, je vais devenir autrice, je vais sortir des livres ». C'est vraiment, j'étais dans un quotidien un peu coincé à Fribourg, où je me sentais pas ni épanouie, ni heureuse, ni rien. J'ai terminé mes études baccalauréat, puis je suis partie à l'université un peu comme tous mes potes, un peu la voie traditionnelle, on va dire. Et en fait, je me trouvais super mal dans cet environnement-là, et donc c'est un peu par instinct de survie, je pense. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui me rendait heureuse dans la vie depuis toujours, et la seule chose qui revenait toujours, c'était à la fois le dessin et puis raconter des histoires. Donc je me suis dit, bon, le métier qui
correspond.
Exactement, c'est le métier d'auteur, ou en tout cas autrice de bande dessinée. Et puis naïvement, j'ai tapé sur Google école BD Europe.
On arrive à Bruxelles.
Et on arrive à Bruxelles, à Saint-Luc. Et puis j'avais déjà entendu parler, puisque il y a deux personnes sur Fribourg qui sont auteurs maintenant, mais qui sont reparties en Suisse, qui sont passées par cette école. C'était à Liège, par contre, pas à Bruxelles. Et donc je savais que c'était quand même un endroit plutôt qui était assez reconnu même à l'étranger. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est l'occasion d'un vrai changement. Puis on voit où ça va.
Alors, donc, comme on a dit, premier roman graphique, en général, quand on parle de première œuvre, que ce soit un bouquin, un film, on met beaucoup de soi. Alors, vous êtes plus Émilie ou Sue ?
Un peu des deux, mais je dois dire que je suis quand même beaucoup plus Émilie, parce que c'est un personnage qui est quand même assez dans la contemplation plus que dans l'action, qui est assez hésitant, qui n'est pas non plus dans une grande... je dirais pas confiance en elle, mais qui est vraiment dans une posture de contemplation par rapport à la vie, qui est peut-être moins plus spectatrice qu'actrice. Et je pense que ça me correspond bien, et j'aime assez bien aussi ce rôle-là. Donc je pense qu'Émilie me ressemble plus quand même que Suzanne.
Alors parfois les choses arrivent avant les mots qui les nomment. Vous croyez au coup de foudre?
Ah ouais. Ce serait horrible sinon. Ah,
c'est clair. Oui.
Ce serait trop triste sinon. Bah. C'est rare, mais je pense que ça arrive. Et je pense qu'il faut aussi peut-être être en bonne connexion avec soi-même pour parfois reconnaître. Parce qu'on peut très vite passer à côté d'une très belle histoire aussi en n'étant pas attentif. Donc, j'ai envie d'y croire, moi.
On n'a pas encore 30 ans, donc il y a encore... Tout est possible. Une rencontre cache la possibilité d'un miracle. Vous croyez au hasard ou au miracle ?
Je pense que oui, je crois au miracle, ça c'est sûr, mais je pense surtout que il n'apparaît que dans les yeux de celui qui sait le reconnaître, qui va le regarder et qui est peut-être à la recherche de ce miracle. Parfois on a l'idée, en tout cas peut-être quand on pense en tout cas à ce mot-là, d'une espèce de révélation, une épiphanie, quelque chose de grandiose et qui va vraiment changer la vie. Mais je pense que pour trouver du sens, en tout cas, ou trouver des impulsions comme ça de vie dans les, de, peut-être de sacré aussi dans les choses, on peut les trouver dans les choses de l'ordinaire aussi, des petites choses banales. Il suffit juste de, je pense, aiguiser son regard et puis accepter que ça peut arriver à tout moment.
Nos liens, si profonds soient-ils, doivent leur grande beauté au fait qu'ils reposent sur un équilibre instable, inexorablement fragile. Vous êtes optimiste ou pessimiste ?
Je suis optimiste quand même. J'ai envie de croire que ce qui caractérise peut-être les êtres humains, c'est leur envie de se connecter, d'être ensemble et puis de... une volonté de collectivité, et ça passe forcément par un effort à fournir dans toutes les relations qu'on a, qui est de faire le choix de l'autre, même dans les moments où on ne le comprend pas. Et ça, c'est un choix typiquement qui est pour moi un peu de l'ordre du miraculeux, parce que c'est dans les moments d'épreuve, en tout cas, quand le lien est justement sujet à la fragilité, qu'on voit si une relation est vraiment... sincère, profonde et belle.
Éventuellement durable.
Ouais. Oui, c'est ça.
En lisant votre BD, j'ai découvert l'existence de boussoles morales. Il y a un marchand dans le coin, parce que je crois que ça serait utile quand même, non ?
Ouais, ce serait utile. Je pense que c'est important de se laisser guider par sa boussole morale, en tout cas de pas l'oublier dans un tiroir quand on sort de chez soi. Mais je pense aussi que ça ne doit pas être le seul guide. Je pense que parfois, on peut aussi être... on peut apprendre et on peut se laisser guider par des choses qui sont beaucoup plus abstraites, qui sont beaucoup moins réfléchies. En tout cas, quand on parle de morale, on a souvent l'idée que c'est des notions qu'on a apprises, ou alors en tout cas qu'on a... Il y a une réflexion derrière, on les a intellectualisées. Et c'est très important à certains égards de le faire, mais je trouve aussi qu'à certains moments c'est bien de laisser de côté un peu cette intellectualisation des choses et se laisser porter par
l'impulsion,
le ressenti, les émotions, des trucs qui sont beaucoup plus abstraits, de l'ordre de l'instinct en fait.
Alors il y a beaucoup de pudeur dans votre récit et la façon dont vous le montrez. Certains parlent d'amitié, de sororité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'aux amours saphiques?
Je pense que c'est une interprétation qui est tout à fait valable, dans le sens où j'ai fait exprès, en tout cas en écrivant cette histoire, de laisser une liberté, en tout cas à la lectrice ou au lecteur, d'interpréter la relation de Emily et Sue comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Je pense que c'est les meilleures histoires, en tout cas l'histoire que moi je préfère, c'est celle où je sens que j'ai une place aussi dans le récit, où j'ai une responsabilité en tant que lectrice.
De choix, hein.
C'est de choix et de me dire je choisis de voir ça, c'est ce que j'ai envie de voir et je me l'approprie, c'est mon objet maintenant, c'est plus l'objet de l'autrice ou de l'auteur, et quelque part ce qu'elle a ou il a voulu dire n'est plus tellement ce qui compte, c'est ce que je veux voir moi. Et j'essaye de proposer ça aussi aux personnes qui pourraient lire ce livre, et je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse en littérature en tout cas.
Alors c'est hors champ, ces moments d'obscurité prolongée, c'était déjà réfléchi dès le départ ou est-ce que ce... À la construction du récit que c'est venu, de se mettre peut-être un peu en recul, peut-être aussi pour permettre l'interprétation du lecteur.
Oui, c'est vraiment une volonté dès le départ. Alors, c'est vrai que dans le processus d'écriture, je suis pas tellement dans une réflexion très... je suis pas très structurée, on va dire, où je me laisse moi-même beaucoup porter par l'intuition et mes propres émotions. J'ai l'impression que je sens quand une chose est bien racontée ou bien écrite. Donc j'essaie d'aller creuser de ce côté-là quand j'ai la sensation qu'il se passe quelque chose de bien. Et je pense qu'il en résulte un travail qui peut finalement être... être tellement ouvert que c'est vraiment sujet à interprétation. On peut très bien lire et choisir de ne voir que la première couche, on va dire, et se dire, bon, oui, quelque part, il se passe des choses, mais il se passe un peu rien dans cette histoire. Je peux comprendre qu'on ait cette interprétation-là. Mais je pense que ça vaut la peine de peut-être regarder plus en profondeur, de chercher peut-être dans les métaphores, qu'ils soient visuelles, littéraires, parfois aussi le dialogue entre l'image et le texte, à certains moments, raconte quelque chose en plus de ce qui est montré. Mais c'est de l'ordre de la suggestion, et comme toutes les suggestions, on peut tout à fait passer à côté. Voilà, si on passe pas à côté, c'est mieux.
L'interprétation à plusieurs niveaux, quoi.
Oui, c'est ça.
Votre style visuel, il vous vient d'où ? Est-ce que vous avez des références ?
Des références, oui, j'en ai. J'ai des films. J'aime beaucoup l'esthétique Wes Anderson, qui est très chorégraphiée, millimétrée. Il y a beaucoup de plans aussi en symétrie. Il n'y a pas tellement dans Fragile cette symétrie qui est présente, mais en tout cas, il y a une esthétique qui est très puissante et très marquée dans les films de Wes Anderson, où je pense dans tout ce qui est plutôt d'ordre de la douceur dans le dessin à Tilly Walden, l'autrice américaine. Il y a pour les couleurs, je cite beaucoup cet auteur-là parce que c'est un auteur qui m'accompagne depuis que j'ai 8 ans, je pense. C'est Julien Nel avec la série Lou. C'est vraiment des petites choses comme ça que je vais aller chercher. Ça peut être de la musique aussi ou des livres, je veux dire de la littérature plus classique, traditionnelle. Il y a des autrices comme Sylvia Plath ou Virginia Woolf énormément aussi, qui dans leur façon de mener un récit, de raconter ou de convoquer des images littéraires, d'écrire autour de sujets qui sont parfois très abstraits, ça me porte moi dans cette... ma création, on va dire, mon interprétation de la création en tout cas.
Emily Dickinson, c'est votre auteur de chevet ?
J'adore son travail, évidemment, qui est très... qui est vraiment étrange, quoi, qui est, pour le coup, je pense que c'est typiquement une actrice. Oui, je trouve qu'il y a une telle... Il y a quelque chose de très touchant dans ses poèmes. Son histoire aussi est très touchante. Enfin, c'est vraiment une figure très singulière aussi parce qu'elle a une façon d'écrire qui est assez hors du commun dans les poèmes. En plus, à l'époque où elle écrit, c'est vraiment une figure pour le coup que je trouve fascinante et qui me suit un peu. C'est évident.
Quand même.
Oui.
Votre analyse de la justice et surtout du droit pénal est assez interpellante, mais aussi fort logique. Alors la justice. Ou plutôt notre système judiciaire est injuste in fine. Est-ce que vous êtes idéaliste ou est-ce que c'est plutôt une vision réaliste des choses ?
J'aime penser que je suis quand même idéaliste parce que ça va avec mon côté voir le positif avant de voir ce qui va mal, mais il ne faut pas être naïf non plus, c'est important de voir les failles quand il y en a. Et je pense que oui, on a parfois une conception de la légalité qu'on confond avec la notion de justice. Ce qui n'est pas évidemment le cas puisque les sociétés évoluent, la justice évolue plus lentement que la pensée et les sociétés. Et donc, je pense que là où il y a des limites à la légalité, puisqu'elle est figée, se référer plutôt à une justice qui serait, encore une fois, plutôt de l'ordre de la morale et de la réflexion, de l'intellectualisation, sans penser à ce qui est légal, ça nous aide peut-être à réorienter et peut-être à corriger et changer peut-être cette légalité pour qu'elle corresponde mieux à l'époque.
Alors, un bon avocat pénaliste peut défendre les pires crapules, il faut pouvoir dormir avec, c'est la conscience qui empêche de dormir. Vous dormez bien ?
Ah, moi je dors super bien, moi j'ai aucun problème de sommeil.
Et de conscience ?
Et de conscience, mais... pas encore, hein. Peut-être dans 10 ans je dirai autre chose.
Vous allez souvent en carouage ? Qui est quand même, j'ai constaté, et ça m'a donné à réfléchir, une pause, un prétexte pour faire semblant de ne plus exister. Et bon,
Alors, j'ai pas de voiture, donc quand je suis à Bruxelles, j'ai du mal à trouver des moments où je peux m'adonner à cette activité. Par contre, quand je rentre en Suisse, ouais, c'est quelque chose que je propose quand même volontiers à ma grand-mère d'aller pour elle au carouage. Parce que, honnêtement, j'aime bien. C'est des moments comme prendre le train, où on est en transit entre un moment et un autre. On n'a rien de mieux à faire que d'être là où on est. Et puis, c'est la machine qui fait le travail à notre place. Et puis, c'est vraiment des moments, je trouve, qui sont magiques, puisqu'on peut vraiment être dans cet état de contemplation et se laisser un peu aller à de la rêverie, quoi, vraiment.
Est-ce que vous trouvez que la BD est le support idéal pour aborder la problématique de la fragilité émotionnelle ?
Je pense que la bande dessinée est un très bon outil puisque à la fois on a donc le texte qui est une partie du médium mais également l'image. Et ce que je trouve merveilleux en bande dessinée, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire avec comment est-ce qu'on peut composer autour du dialogue qu'il va y avoir. Parce que personnellement, quand j'ai des bandes dessinées et que je sens que l'image illustre le texte, je suis un peu dérangée, je me dis c'est dommage, quelque part, pourquoi ne pas laisser que le texte si le dessin n'a pas sa propre voix, son propre discours.
Quelque chose de plus,
oui.
Ça,
moi. Et en tout cas, la fragilité, comme moi je l'aperçois, c'est évidemment un synonyme qu'on peut dire de faiblesse, un manque de solidité, peut-être quelque chose qui est amené à disparaître très facilement. Mais je trouve que, justement, quand on sait qu'une chose est fragile, peut-être on en prend plus soin quand on a conscience de cette fragilité. C'est comme quelqu'un qui chuchoterait, on tendrait l'oreille pour l'entendre. Peut-être que quelqu'un qui crie, on entend moins ce qu'il a à dire. Donc c'est dans ces petits moments-là, justement, d'ambivalence, on va dire. Et l'ambivalence, par la convocation du dessin et du texte dans la bande dessinée, ça en fait, pour moi, le médium... idéal.
Ouais, on peut le dire.
On peut le dire, ouais.
Mathilde, un grand merci. Donc, on rappelle Fragile, sorti aux éditions Castorama. Merci beaucoup.
Merci à vous.